Alors bonsoir, merci d'être là ce soir pour ces rencontres du jardin. Donc cette deuxième édition organisée cette fois par le collectif Artifocal qui depuis la dernière fois s'est structuré autour d'une association. Et l'objet de ce petit spectacle, c'est de vous présenter des textes en musique d'un livre qui a été écrit familialement par la famille Carré. Mon papa qui a enregistré mes vieilles tantes et moi qui ai récupéré des photos de leurs histoires, les histoires du village pendant la guerre de 1914. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Françoise, ma sœur, et à Frédéric qui ont préparé ce spectacle.
Alors, le projet, il est né dans les années 90. À cette époque, mon père avait des vieilles tantes qui habitaient le village de Rochefort-du-Gard. Et elles étaient nées en 1897, l'aînée, et 4 ans après sa sœur. Ce sont des femmes qui ont beaucoup marqué tout le village et toute la famille parce qu'elles racontaient beaucoup d'histoires. Et mon père a eu l'idée de les enregistrer, de collecter de leurs paroles sur un thème qui était les femmes au village pendant la guerre. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes qui restent, qui elles ne sont pas parties au front, qui elles ont attendu, qui elles ont travaillé, qui elles ne se sont pas mariées quand leur promis était tombé au front. Donc, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Il les a enregistrées, elles ont offert cette parole qu'il a enregistrée, qui est restée sur des cassettes, dans des tiroirs pendant presque 25 ans. Et voilà qu'un beau jour, elles sont sorties sous la forme d'un très bel objet, publié aux éditions Hasard, c'est ça ?
Hasard Atelier.
Ce texte, moi je l'ai lu évidemment, je l'ai dévoré parce que c'est un peu mon histoire, mais je crois que c'est l'histoire de tout le monde, d'un pays qui a vécu la Première Guerre mondiale aussi. Et en racontant à Frédéric les passages qui m'ont marqué, Frédéric est poète, il m'a dit je ne vais pas lire le livre tout de suite, je vais m'imprégner de ces émotions, de ces récits. Et il en a fait sa source d'inspiration et donc il a composé 6 poèmes. Donc ce qu'on voudrait présenter, un peu une mise en regard de ces passages, de certains passages du livre avec les poèmes de Frédéric. Voilà, et je commencerai. Et je commencerai juste par vous lire un petit paragraphe qui est de l'auteur, donc de Joseph Carré, Tarek, qui dit « Elle avait 97 quand elle mourut. Depuis, les hommes la laissent tranquille. Sauf moi, son filleul, respectueux et aimant, qui suis venu lui tirer les pieds pour dérouler le film de ses années et mettre un peu plus de sens et de justice dans l'histoire de sa vie. Pour annoncer qu'un tel ou un tel était tombé au champ d'honneur. D'après ce qu'on peut lire sur le monument aux morts, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu 42 en 4 ans, presque un par mois. À la fin, ça devait être difficile pour les filles de trouver un mari, car sur 3 hommes du village valides d'une trentaine d'années, partis en septembre 14, un avait été tué ou avait été porté disparu, un autre avait été blessé, mutilé, gazé, ou avait eu volontairement, pour en finir avec cette guerre horrible, les pieds gelés. Le troisième, arrivé sain en apparence, était profondément traumatisé et n'avait guère envie de festoyer en existant. Par exemple, le petit de Marie-Rose, la tante, la vieille tante, Paul Rouquette, que l'on voyait dans les rues toussant et si fatigué, avait été gazé et craché ses poumons. Défilé de mort. Thank you.
c'est pas des clous. Juste des tiges pour la place. Du cirque sur la place. Vous le rappelez, vos notes ? C'est elle qui se fait rabattre. Alors le Paul, ton vital inconnu, il s'est dit pas, c'est plus que t'as saigné le Paul. T'as la rue.
Pointeux, qui bougeait à présent. 4 années de torture, ça vous mord la langue.
Et le reste,
mon Dieu. Vous m'avez donné à parler. Vous m'avez appris à crier. Plus que des lèvres. Où êtes-vous par ce matin qu'on voit revenir au village des hommes défunts du visage? D'avoir vu leurs amis crever, d'avoir tant vécu dans les plaies. Où sommes-nous dans cette histoire de... Partout là. Ça fait gadou dans la mémoire. On en fera des monuments.
On en fera des monuments.
On en fera des monuments.
Moi, c'est mon cœur que je retiens. Pour qu'il ne tombe pas.
Alors, cette tante, elle faisait plein de choses, et notamment, il y a... C'est quelqu'un qui, dans le village, elle avait eu un rôle important.
Donc, les hommes tombés au front. À l'inverse, les jeunes filles étaient nombreuses. Marie-Rose et Marguerite assumèrent cette carence d'amour matrimonial et de sexe de façon différente. Pour Marie-Rose, elle reporta sa grande puissance d'humanité sur les êtres ou les familles qui venaient ou venaient de perdre un être cher. C'était elle qui prenait en charge les toilettes funéraires et qu'on appelait pour cela. Ainsi, d'une certaine manière, en assistant les personnes en deuil, elle accouchait à la mort. Comme la vieille Sophie, son amie, elle, accouchait à la vie.
J'aimerais voir jouer tes doigts, la musique, c'est mieux que les coups de feu.
La Marie à charge de vêtir. Toi, t'es de femme oblige, oh la Sophie. Leur vie parmi les pleurs en couche, accouche et couche. Éclat de vie. de brasser de tous les âges. Véla Sophie, Ola Marie, Ave.
Sophie s'occupait des naissances, Marie mort, Marie-Rose des enterrements. Hein, donc voilà, c'est l'entrée et la sortie du village. Hein, les deux travaillaient main dans la main, quelque part. Alors la chanson de Raymond, bon, en plus c'est le prénom de mon père, ce Raymond a existé. Hein, ce Raymond était bon, ce Raymond était un homme simple, comme on peut être quand on vit, tout simplement. Et il a connu la guerre, il a, sous les coups d'obus, hein, été enterré, mais il n'est pas mort, il s'est déterré. Quand il est rentré au village, il était vaguement traumatisé, le gars. Il demande à son beau-frère une tenue pour le dimanche, parce qu'il en avait assez de se balader en bleu de travail. Donc le beau-frère se met à rire, il lui dit « Écoute Raymond, t'as jamais eu vraiment de tenue chic, c'est pas maintenant que tu vas en avoir une. » Raymond lui répond, et il s'y attendait pas, « Si j'ai pas ma tenue, je te flingue. » Alors évidemment le beau-frère s'est mis à rire, Raymond n'ayant pas eu sa tenue, il flingua le beau-frère une semaine plus tard. Et tout le monde, tous les témoins en question ont dit « Mais on comprend pas. » On peut comprendre juste que la guerre rend fou. Alors c'est la chanson de Raymond.
Raconter l'histoire. Donc, Raymond, Raymond se constitua prisonnier à la gendarmerie de Villeneuve, des Avignons. Jugé pour meurtre, il fut envoyé au bagne à Cayenne. Il y retrouva nombre de ses camarades condamnés pour avoir refusé de monter des tranchées. L'abbé Dibon, un parent à Mamé Rose, aumônier au bagne, quand il venait dire bonjour à la famille à Rochefort, déclarait toujours que Raymond était un homme d'une très grande bonté et qu'il avait fallu que l'insulte soit ressentie très fortement pour qu'il se venge aussi sévèrement.
Okay. Thank you. était déjà mort deux fois.
Comment voulez-vous qu'il revienne, ayant sourire à son trépas? Deux fois qu'on l'a eu enterré, deux fois qu'on l'a eu enterré. C'était pas des belles tranchées, funestes de ces pompes-là. Il s'était déterré deux fois, il s'était déterré deux fois, meurtri des bras, des pieds, meurtri, portant la croix de tous ses cris. Alors au café, il entra, il n'avait plus rien dans la voix, et dans ses yeux brûlait la fièvre. Je vais au rendez-vous de bière, paupières bombardées de noir, chemin, de mat, de va-t-en-guerre, oraison, de fournaise noire. Il ne met plus rien pour espoir, il ne met plus rien pour prière. Seul là se sent tordu de fièvre. C'était un homme comme il faut. On le disait gentil, d'avant qu'à présent il porte sa faux. La chevrotine en dit l'écho. La chevrotine en dit l'écho. Sans que ce soit, sans que ce soit là de son choix. Il était déjà mort deux fois. Comment voulez-vous qu'il devienne?
La tante racontait que c'était important pour eux d'avoir des photos quand les hommes. Partaient au front. Donc ce jour-là, ils étaient partis, ils étaient tous habillés, c'était fait beau, ils étaient partis faire des photos. Et donc le jour où Joseph a interviewé, a enregistré Marie-Rose, elle voulait lui montrer la photo et elle ne trouvait pas la photo. Mais elle lui dit, regarde ce qu'il y a, en fait, regarde, j'ai quand même un objet là que les hommes ont mené au front, on leur a envoyé, c'était une petite boîte avec dedans une aiguille, du fil et un dé. Là, de la main qui suit, ça peut faire une vie déroulée. Il est venu ce jour de foi, au but mortier de mort tranchée, tout en vain. Oui, ça peut foirer le temps, des tout parmi des morts pour rien. Dans la main, ça peut partir d'un rien, vient en son tour l'ami gangrène. On n'en retourne pas l'ami de guerre, un bras coupé l'ami comme un jour de travers. Il apprend la main, il n'y a pas photo, même pas pour. Ça fait du bien.
Maçon de tous les morts, des fils, des fils, s'il n'y a pas champagne, à la vie sous le ciel, on aura mis la boue. Dites le S aussi, à traversant, et un temps son tour, du jour, la boîte agit, du jour. On n'en reviendra pas, l'ami. Coupez la boîte agit. Ça fait tant l'heure aux yeux de voir, quand la chaleur donne sa part. Reste la boîte par magie. Tiens là, vas-y chercher l'aiguille du temps qui n'a plus cours ici. Du temps,
je leur ai rapiécé la vie. Et la petite voix qui dit, comme une lettre, cette voix. Qui sait pourquoi l'on vit. Voilà, quand Raymond et autres reçoit sur le front cette petite boîte, c'est du fil une aiguille, mais à travers cela, il fait un voyage dans sa vie d'avant, qui n'a plus cours aux tranchées. Donc, quelque part, il revit de la beauté et il oublie ce monde environnant qui est noyé de corps morts, quoi. C'est ce qu'on voulait essayer de dire. Un colis pour chanter, la prochaine, c'est du même ordre. Hein, c'est quand un homme recevait un colis, par exemple un savon de famille pour se laver, il demandait à ses proches de se doucher avec avant.
Rouvier écrivait, si vous envoyez un morceau de savon, servez-vous-en avant de l'envoyer. S'il est neuf, on nous le vole. S'il était usé de tous les côtés, on n'y prenait pas. Alors, quand on prenait du savon, on lavait de tous les côtés, parce que ça nous arrivait des fois qu'avec du suif, avec tout ce qu'il fallait, on en faisait. Mais lorsqu'on lui envoyait de celui qu'on avait fait, on n'y prenait pas. Et la patronne disait, « Augusto, vous pourrez laver les choses des petits. » Ah, Couillosti, elle y lavait les siennes. Alors il acceptait, il disait, pourvu que j'en ai assez pour me laver moi. Oh, il y en a qui ont passé de dur, hein. Fernand en a passé une très dure étant plus jeune.
Je l'aime, ce savon. Passez-le-moi sur la poitrine. Lavez-vous tant que j'en dessine tout son palpant noirci de vie, de bonne suie. Des deux côtés, n'hésitez pas. Savonnez-le bien, ce savon. Que je sente le temps d'un bain. Un peu moins la bombée les tombes. À savoir votre peau, là, toute de vie passée dessus. Pensez à l'user, ce savon, si vous le voulez m'arriver. Qui livre son compte en colis, sans que les autres ne le gardent. Et dans le grand bain de famille, je me joue la pelle dedans. Tout à la fumée du foyer, au barbelé cri des tranchées, petit savon. Toi qui m'emballes, plutôt que de se tirer balle. Toi qui dis vrai, lavant les cris, lavant les pieds, lavant les plaies, savonnant ces tranchées meurtries, jusqu'au temps qui tue mes amis, de froid, de feu. Malgré la mort versant les os, les corps, la peau, malgré ces douches tant glacées, du ciel qui tombe en mortier. Y a que quand tu nous viens, je vis cet homme ensemble. Mon Dieu, je l'aime, ce savon. Passez-le-moi sur la poitrine. Lavez-vous tant que j'en dessine tout son palpant noirci de vie. Savonnez-le bien, ce savon. Que je sente le temps d'un bain. Un peu moins là tomber les bombes.
Les bombes tombées, ça va.
Bon.
Merci.
Ah oui, déjà.
Oui, là, je dois expliquer, parce que vous allez entendre pas racler. Il se trouve qu'en Françoise Malus, ses pages sur un dénommé Pascalet, que son papa Joseph Carré a inventé, c'est un personnage fictif de ce livre, alors qu'aux trois quarts, c'est vécu, c'est historique et familial. Il y a à un certain moment une ou deux figures fictives, mais qui pourraient représenter, là pour le coup avec Pascalet, un déserteur. Il y a eu beaucoup de déserteurs, surtout en 17, quand on a vu que cette guerre était insensée, absurde. Le papa Joseph a inventé ce personnage, mais symboliquement il en représente d'autres. Mais moi j'ai entendu sur le moment paraclet, et paraclet veut dire le Saint-Esprit en fait. Donc Pascalet le déserteur, j'ai entendu comme paraclet. Du coup, dans les vers qui suivent, j'ai mélangé les deux. Le Saint-Esprit est aussi un déserteur.
Alors voilà ce que disait donc le temple sur le déserteur. Je vais vous dire ce que dit Joseph avant. Cette anecdote qui, dans mon esprit, s'oppose à celle du fils soumis et que j'ai reprise dans mes histoires tirées de faits réels, je l'ai tellement entendu raconter moi-même, je l'ai tellement tourné et retourné pour moi-même et pour les autres, que je suis incapable de certifier la véracité de tous les détails. Mais après tout, la vérité forgée par les paroles successives des uns et des autres est peut-être plus instructive que la vérité vraie. L'histoire du jeune homme qui voulait rejoindre sa mère se passe vraisemblablement au tout début de la guerre, à la mobilisation. Il fait partie des 3 780 000 mobilisés de cette époque, que le doute n'effleurait pas sur le bien fondé du carnage à venir. Celle du déserteur de Château-Renard a vraisemblablement lieu en 1917, peu avant les grandes mutineries, cette insurrection qui, après les 180 000 morts du chemin des Dames, furent le fait de 40 000 hommes dans 70 divisions sur 110. Quelques 3 000 poilus furent condamnés, 555 à mort, dont 49 furent effectivement fusillés. Parmi ceux-là, Poincaré refusa de gracier ceux qui avaient insulté ou frappé un officier. Les autres eurent des peines de travaux forcés, de déportation au bagne ou de prison. Essayons d'imaginer la révolte de Pascalet. Ses frères avaient été tués, tous deux, le même jour, suite à la terrible habitude de mettre les membres d'une fratrie dans la même unité de combat. Ses camarades venus du monde ouvrier, eux, avaient regagné leur usine à l'arrière pour soutenir l'effort de guerre. Ou bien, ils avaient été nommés à des armes mécaniques comme l'artillerie ou les transmissions. Il se retrouvait donc, lui, le paysan, comme les autres paysans, ses frères, avec un billet pour la première ligne du front. Sur le plan de la guerre, le nouveau chef des armées, Philippe Pétain, même s'il l'avait voulu, ne pouvait pas revenir sur l'engagement suicidaire du général Nivelle. Ce n'était plus comme dans le cri des adjudants qui poussaient à sortir des tranchées « En avant ou la mort !» Il fallait bien s'y résigner. C'était maintenant en avant et la mort. Pascalet le savait. On avait le choix entre une balle dans le dos par le sergent fou furieux qui faisait monter les hommes de la tranchée, ou se laisser faire prisonnier le plus vite possible au risque de périr sous les balles d'un sous-officier allemand ou d'être déporté en captivité loin dans l'Allemagne profonde. C'est pour ça que des bruits couraient de mutineries, d'insoumissions, de groupes qui, au lieu de lui obéir, avait tiré sur l'officier qui les commandait. il y eut à Noël, quand les tranchées allemandes et françaises étaient très proches, des fraternisations entre soldats ennemis, mais aucun poilu n'avait songé à s'en vanter. Elles étaient restées secrètes autant que possible, de peur que l'état-major en représailles bombarde le régiment. Pascalet, voilà, on y arrive. Pascalet avait entendu à ce propos ressortir les idées de Jaurès sur l'international des gens du peuple, et il les avait prises au mot. Comme il connaissait aussi bien le dédale des parcelles où l'on cultivait les légumes que tous les bois où il avait chassé autour des Baux de Provence et de Saint-Rémy, au lieu de regagner sa caserne, il avait pris le maquis. Quand il manquait un pantalon ou une chemise à l'étendage, ou que la tranche de viande mise au frais sur la fenêtre avait disparu, on disait « Nous savons qui c'est Pascalet, le déserteur ». Juste après la guerre, alors que l'amnistie n'avait pas encore été promulguée, Pascalet pouvait descendre, raseter dans l'arène pour les courses de taureaux, croiser les biudantes dans leurs courses pour leur prendre la cocarde et aller chercher auprès du jury, les prix qu'il avait gagnés. Les gendarmes fermaient les yeux. Comme pour le capitaine Conan dans le film de Bertrand Tavernier, le retour à la vie normale, disent les tantes, n'avait pas été facile. Mais des fois, elles sont tellement mauvaises langues. Il avait vu si souvent la mort en face et toutes les faiblesses humaines face au danger. Comment aurait-il pu vivre normalement dans un monde sans guerre? Surtout, il n'avait pas respecté le grand interdit, celui que le groupe dictait aux individus de ne pas se dérober au combat des tranchées et de risquer sa vie pour la patrie. Alors, comment aurait-il pu respecter les interdits bénins de la vie quotidienne? On raconte qu'une fois amnistié pour survivre, il vendait aux paysans de l'engrais dont il avouait lui-même en riant qu'il était surtout composé du sable du Rhône. Plus tard, on dit même qu'il fit travailler des femmes sur les trottoirs d'Avignon. La dernière image qui arriva de lui fut celle de seconde main que donnèrent certaines personnes. Chez les carisseurs, pour qui il travaillait, il était tellement insensible à tout ce qu'il avait coutume de prendre qu'il avait coutume de prendre son repas sur le cheval mort qu'il était venu chercher avec sa charrette. Il dépliait son papier gras, à même l'animal, et placidement, assis sur le cul de la bête, mastiquait son saucisson ou son fromage. Peut-être l'odeur lui rappelait-elle cette bête.
Papa, raclé, où t'es passé, y a pas raclé, c'est pas raté, tu vois, t'es fait de temps, de nous. Tu peux te le siffler partout, au cul du loup. Alors autant que chaperon, par les forêts du cœur battant, rejoins-nous là, mon déserteur, non point là pour planter des bombes, par les genêts, allons siffler, au cul du loup. Papa, paraclé, où t'es passé, y'a paraclé, c'est pas raté, tu vois t'es fait, de temps, de nous, tu peux te le siffler partout, au cul du loup. Tout à l'instant que je l'écris, vous aussi, regardez ces feux, douce, pas douce ma chanson, il faut quelque chose à la nuit, à sang, remettre un peu d'esprit, et ces lumières en battues, ça claque, des braises, de lune, Jojo, Rouvière, ces maquisards de la poussière, l'autre, Victor, Jeanne, aux paupières, de cette vie qui veut le jour et Pascalet. On y arrive au Pascalet, on y arrive au Pascalet, on y arrive au mon Paran.
Le Pasaran.
Merci. Merci à vous.
On a aussi des chansons d'amour, mais bon, là...
C'est juste aussi pour préciser que ce spectacle a été enregistré par les soins d'Émilie et Fabien de Canal Sud, qui ont bien voulu venir ici ce soir. Voilà. Et on les remercie donc, ainsi que la radio, pour ce travail, donc qui sera ensuite mis à disposition sur le site du collectif. Voilà.
Demain, on peut préparer plus doux. Voilà, alors demain, on a prévu un autre spectacle dans l'après-midi. Donc, en fait, alors malheureusement, c'est pas possible parce que mon accompagnateur est en concert à, je sais pas où, à Aulus-les-Bains, pour un festival du livre, justement. Mais il s'agit de poèmes qu'a écrit et publié Suzy, qui présente en 1975 sur le Maghreb. Alors, nous-mêmes, dans la famille, on est, bon, notamment moi, très attachés à tout ce qui est ce monde arabe et le Maghreb. Et j'ai trouvé ces textes tellement superbes que j'ai tenu à les mettre en lecture. Donc, vous aurez ça demain, accompagnement à la guitare, et peut-être une petite... un petit complément de ce que vous venez d'entendre ce soir, voilà. Merci.